Sud Radio, l'œil de l'expert.
Nous sommes en pleine consultation pour tout vous dire ce matin. Je suis en compagnie du professeur Amarenko, Pierre Amarenko. Bonjour, vous êtes certainement vous êtes professeur de neurologie à l'Université de Paris, vous êtes chef du service de neurologie et d'unité AVC de l'hôpital Bichat à Paris et vous êtes le président fondateur du fonds Vaincre l'AVC. J'avais commencé en disant que vous êtes certainement l'un des meilleurs connaisseurs de l'AVC au monde. On a de la chance d'avoir en France des chercheurs, des professeurs d'université comme vous qui sont reconnus mondialement pour leurs travaux sur l'AVC. Vous publiez aux éditions du Rocher « Vaincre l'AVC, comment le reconnaître, comment en guérir, comment le surmonter et comment l'éviter ?» Parce qu'on peut éviter l'AVC et il faut connaître un certain nombre de choses. Moi, j'étais très étonnée de voir qu'il n'y avait aucun ouvrage sur le sujet, aucun ouvrage comme celui qui vient de paraître, extrêmement didactique, facile d'accès et très complet sur ce qu'est l'AVC. Parce que l'AVC, ça touche un Français sur cinq. Et est-ce que vous êtes parti du même constat ? C'est-à-dire qu'on parle du cancer, on parle de beaucoup plus maintenant d'Alzheimer, mais l'AVC, on en parle assez peu.
Oui, c'est vrai, on en parle assez peu et on en parle maintenant depuis disons 15-20 ans, on commence à en parler quand même, car on a désormais la possibilité de guérir de l'AVC. Avec des traitements, lorsqu'ils sont appliqués de façon extrêmement urgente, on peut déboucher l'artère qui se bouche et qui provoque l'AVC. Et ça a évidemment entraîné un intérêt autour de l'accident vasculaire cérébral, car désormais, si on sait reconnaître les symptômes d'AVC et si on va assez vite à l'hôpital, on a des chances de guérir, de récupérer et de limiter en tout cas les dégâts causés par l'accident vasculaire cérébral.
J'ai retenu cette phrase « time is brain », le temps c'est du cerveau, c'est-à-dire que plus on perd de temps, plus on perd de chance. Et alors peut-être qu'on va expliquer ce que c'est qu'un AVC. Vous dites que c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est-à-dire qu'il arrive comme ça d'un seul coup l'AVC.
Voilà.
Comment on peut l'expliquer ? C'est quoi un AVC ?
Un AVC, c'est...
Accident vasculaire cérébral.
L'accident vasculaire cérébral, c'est une zone du cerveau qui est détruite ou abîmée, soit par une hémorragie, c'est-à-dire une artère éclate, et à l'intérieur du cerveau, le plus souvent sous l'effet de l'hypertension artérielle, et cela cause un dégât alentour, et par conséquent, une paralysie d'un côté lorsque c'est une zone motrice, ou un trouble de la vue lorsque c'est une zone visuelle, un trouble du langage lorsque c'est une zone du langage du cerveau. Ça, c'est la première cause d'AVC, c'est environ 20% des cas, l'hémorragie cérébrale. Et l'autre, c'est l'infarctus cérébral, c'est-à-dire comme pour le cœur, une artère se bouche, et le territoire irrigué par cette artère dans le cerveau est abîmé par cette ischémie, qui est l'autre terme que l'on utilise, accident ischémique cérébral. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir déboucher cette artère le plus vite possible.
Alors, les causes, on va parler de la prévention, évidemment, parce qu'on peut prévenir l'AVC. Vous dites que 80% des AVC pourraient être évités.
Devraient être évités.
Devraient et pourraient.
Pourrait et devrait.
Ouais. Donc, les causes de l'AVC, c'est quoi ?
Alors, les causes de l'AVC, contrairement à l'infarctus du myocarde, qui est univoquement lié à la maladie athéroscléreuse des artères coronaires.
C'est-à-dire des plaques...
des plaques de graisse à l'intérieur des artères. Eh bien, là, dans l'AVC, il y a aussi cette possibilité de plaques de graisse à l'intérieur des artères, souvent dans le cou, au niveau de la carotide ou à l'intérieur du crâne. C'est environ 40% des AVC. Il y a 20% des AVC qui sont liés à un caillot formé dans le cœur à cause d'une arythmie cardiaque le plus souvent ou une maladie des valves cardiaques.
Le cœur qui ne bat pas
irrégulièrement. Et, voilà, l'irrégularité forme de battement cardiaque fait un ralentissement du flux de sang dans le cœur et comme quand vous faites de la sauce hollandaise vous ne tournez pas dans la casserole, ça caillote tout de suite. C'est pareil. Et ce type d'AVC peut être évité par les anticoagulants. Ça, c'est la deuxième cause d'AVC. Et la troisième grande cause, parce qu'il n'y en a plus de sang, la troisième grande cause, c'est ce qu'on appelle la maladie des petites artères intracrâniennes qui se forment de façon très chronique, très lentement par l'hypertension artérielle qui épaissit les petites artères intracrâniennes qui, à un moment donné, soit peuvent soit éclater sous l'effet de l'hypertension, soit se boucher. Parce qu'il y a cet épaississement et un caillot qui se forme à ce moment-là.
Vous dites dans l'introduction, l'AVC est certainement l'une des maladies les plus graves qui existent. Mais on n'en meurt pas, en général.
Alors, on en meurt beaucoup moins que de l'infarctus du myocarde. Ouais. C'est la caractéristique de l'AVC, c'est que ça donne plus souvent un handicap fonctionnel que ça ne tue. Ça tue dans un certain nombre de cas, dans environ 10% des cas, mais surtout ça donne un handicap. Et c'est en cela que c'est une des maladies les plus graves qui existent, car qu'est-ce qu'il y a de plus grave que de perdre la capacité de marcher, de se mouvoir, de s'exprimer oralement, ou de pouvoir lire, ou de pouvoir regarder dans son environnement, voilà, lorsqu'il y a un trouble de la vue.
Oui, ça laisse des séquelles. Vous évoquez effectivement les conséquences. Vous dites on n'en meurt pas, mais les conséquences sont importantes. Et ce qui est vraiment formidable dans le livre, c'est que il y a à la fois, vous vous adressez aux soignants, vous vous adressez à l'entourage, très important, pour aider à comprendre ce qu'est un malade, quelqu'un qui a eu un patient, qui a eu un AVC. Donc c'est vraiment un livre qui décrypte, et encore une fois de façon très accessible, ce qu'est un AVC, comment le prévenir. Il y a un test à la fin d'ailleurs pour savoir, et on peut aller, vous avez développé un site, c'est très, très concret et très complet. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux gens qui nous écoutent? Il y a plusieurs aspects, c'est comment reconnaître déjà.
Oui, alors juste pour finir sur ce qu'on vient de dire, on a dit que ça pouvait donner des séquelles graves, etc. Ouais. Mais il faut donner espoir quand même aux gens, parce qu'il faut dire que plus de 60% des gens qui ont un AVC récupèrent de l'AVC. Ouais, ouais. Alors certes, il y a 20% des gens qui gardent des séquelles et 10% qui gardent des séquelles très sévères, mais il y a quand même 60% des gens qui guérissent de leur AVC quasiment, quoi.
Mais ceux dont on voit les difficultés, qui ont des séquelles sévères, auraient pu être évités, on aurait pu améliorer ou pas, où il y a parfois des types d'AVC qui font que on récupérera jamais la motricité, ou c'est quoi, c'est une question de rééducation aussi?
Alors, la rééducation, elle se fait naturellement et elle se fait grâce aux rééducateurs aussi, qui sont très très importants dans la prise en charge, comme la rééducation orthophonique. Non, un AVC, en général, récupère dans 60% des cas. Pour améliorer cette chance de récupération, la seule chose, c'est de pouvoir arriver le plus tôt possible à l'hôpital et pouvoir aller dans une unité neurovasculaire, une unité d'AVC.
Ouais, mais quand on est isolé, ce que disent nos auditeurs, le problème, c'est que quand on habite loin... Alors, c'est compliqué.
Quand on habite loin, c'est un peu plus compliqué. Cela dit, quand on appelle le 15, on se débrouille toujours pour vous amener le plus vite possible à l'hôpital. Et s'il le faut, dans des coins reculés, ça peut être l'hélicoptère ou bien encore la télémédecine qui nous permet de pouvoir, à distance, une unité d'AVC avec un hôpital de campagne, par exemple, qui possède un scanner. Vous faites le scanner sur place. En télémédecine, on examine le malade. On discute avec le médecin qui est à côté de lui, et on peut lui conseiller de faire le traitement thrombolytique, c'est-à-dire ce médicament qui débouche
le caillot.
Voilà, les caillots, qui dissout les caillots, qui débouche l'artère et dissout le caillot. Ça, c'est une avancée quand même, la télémédecine, ça permet de désenclaver, ça permet d'améliorer l'accès aux soins.
Donc il faut rassurer un petit peu, c'est ça. Autre question, qu'est-ce qu'on fait quand, des années plus tard, qu'est-ce qu'on peut faire quand l'AVC est...
Il y a toujours des choses à faire. Parce que le problème des années plus tard, c'est que souvent, les gens ont tendance à s'isoler lorsqu'ils ont des séquelles importantes. Ouais. Quand ils n'ont pas de séquelles, ils reprennent leur vie et normalement, le plus normalement possible. Lorsqu'ils ont des séquelles, des années plus tard, faut pas hésiter à consulter son neurologue traitant, car il y a toujours des choses à faire pour améliorer la raideur qu'on peut avoir après une hémiplégie, pour améliorer la marche, simplement la prescription de chaussures sur mesure.
Oui, de chaussures adaptées.
Adaptées peut permettre de vraiment améliorer considérablement la marche. Mmh. Donc tout cela, il faut le prendre en charge. Également, tout ce qui concerne le handicap invisible, invisible par l'entourage, mais visible par le médecin, et qui va vous conseiller une prise en charge. La dépression aussi doit être traitée,
absolument.
Et cela améliore
les troubles
beaucoup les patients.
De l'humeur, il y a beaucoup
les
de choses
de
qu'il faut... C'est des choses dont on parle assez peu, on voit toujours le côté d'un bras qui ne bouge pas, ou de quelqu'un qui a du mal à se mouvoir. L'AVC, c'est beaucoup plus vaste dans ses conséquences, et avec des effets qu'on peut atténuer.
Qu'on peut atténuer, prendre en charge. Il y a des problèmes de caractère, parfois... voilà, il y a des frustrations. Vous savez, après un AVC, la personne qui en est atteinte, elle doit retrouver l'estime d'elle-même. Elle doit pouvoir retrouver la place, sa place dans la famille, dans la société. Et le plus souvent, c'est possible. Parfois, c'est compliqué. Et là, il faut aider. Et ces frustrations peuvent générer, si vous voulez, même des conflits familiaux, etc. Et il faut pouvoir prendre en charge ces choses-là. Il y a des moyens de le faire. Il faut consulter.
D'accord. Une idée reçue, c'est que ça ne touche que les personnes âgées. Et ça, c'est important de le dire, et vous évoquez, alors moi ça m'a beaucoup étonné, l'impact du tabac, évidemment ça c'est pas étonnant, mais du cannabis, en particulier chez les jeunes. Il n'y a pas que les personnes âgées qui ont des AVC.
Non, il y a 30 000 AVC, on estime qu'il y a 30 000 AVC en France chez des gens de moins de 55 ans. Donc 30 000, c'est énorme. Et oui, en effet, le tabac chez les femmes jeunes est un problème épidémique actuellement. Ouais. Hein, c'est majeur. Le cannabis, c'est évidemment quelque chose qui est très mauvais pour le cerveau. On se rend compte pour nos adolescents qui sont complètement stone, voilà, quand ils fument, malheureusement. Mais le cannabis, oui, c'est mauvais pour les artères cérébrales. Et nous, chez les gens de moins de 55 ans ou moins de 60 ans, on dose systématiquement le cannabis dans les urines quand le patient arrive avec un AVC.
Et dans la majorité des cas, c'est positif au cannabis.
C'est souvent positif.
Ouais, c'est souvent positif. Vous donnez effectivement beaucoup d'espoir dans le livre. D'ailleurs, ça, la dernière phrase, c'est « Vaincre l'AVC est possible. Si vous voulez éviter l'AVC, vous le pouvez. » Vous avez lancé cette fondation à laquelle on peut s'inscrire, enfin participer, vous aider financièrement, faire des dons. Hein, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de fondation pour l'AVC.
Il y a des fondations pour la recherche sur l'AVC, mais pour la prise en charge des patients, là, il y a tout un aspect solidarité dans cette fondation, c'est-à-dire son fonds de dotation plutôt, c'est-à-dire qu'on va aider les personnes à pouvoir transformer leur baignoire en douche pour handicapés, lorsque c'est nécessaire, pouvoir mettre des barres de soutien dans la maison, ou pouvoir améliorer la mobilité, par exemple un scooter électrique pour handicapés. C'est quelque chose de très important pour c'est la liberté retrouvée, c'est permettre d'aller visiter une exposition sans avoir la difficulté à tenir debout. Donc tous ces aspects-là sont très importants pour la vie de la personne handicapée. Et puis aussi, il y a un aspect très important dans ce fonds, c'est la détection des patients à risque, parce que on sait qu'on peut éviter 80% des AVC en maîtrisant les facteurs de risque d'AVC. Et pour cela, donc, on a développé un questionnaire sur le site vaincrelavc.org que j'invite tout le monde à remplir, car cela permet de savoir si l'on est à risque, et on reçoit un compte-rendu détaillé, personnalisé de ce questionnaire avec des conseils pour éviter l'AVC.
Les risques d'AVC, donc les principaux risques, vous avez dit qu'il y a plusieurs, il y a une centaine de causes, mais le diabète, le tabac, l'hypertension.
Alors ça, c'est des facteurs de risque.
C'est des facteurs de risque, oui.
Voilà, les causes, c'est athérosclérose cardiaque, maladie des petites artères. Et les facteurs de risque de ces maladies, c'est en effet l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, le facteur de risque majeur d'AVC, le tabac, le diabète, le cannabis. Le stress, c'est une question qu'on pose tout le temps. Oui. Disons que c'est un facteur favorisant, mais ce n'est pas un facteur de risque. Il y a l'inflammation aussi qui est un facteur très important de risque d'AVC maintenant. Et puis, il y a le surpoids, l'obésité. La part attribuable est de 25%. La part attribuable dans les facteurs de risque d'AVC, c'est 25% pour le surpoids.
Il y a des questions autour du vaccin. On a un auditeur qui nous dit qu'il y a eu plus d'AVC depuis qu'on a vacciné. Est-ce que vous avez pu observer ça ?
Non, c'est pas vrai. Pardon de le dire comme ça. Non, mais dites-le, faux. Voilà. C'est faux. Il y a certains cas rares de thrombose veineuse cérébrale que l'on a pu voir après une vaccination, mais c'est exceptionnel. Non, le vaccin est tout à fait sûr et ne provoque pas d'AVC.
Nous n'avons pas vu d'augmentation du risque. Dans un très grand hôpital parisien, vous êtes encore une fois, je le redis, l'un des plus grands spécialistes de l'AVC. Vous n'avez pas observé des faits AVC.
Nous n'avons pas observé d'augmentation d'AVC à la suite
d'un vaccin.
De la vaccination, qui est très sûre, et j'invite tout le monde à se faire vacciner. C'est très important. Le risque du vaccin est infinitésimal. Ouais. Quand on monte dans un avion ou dans un train, on prend un risque, mais on le fait quand même parce qu'on a besoin de se déplacer. C'est exactement pareil pour le vaccin. Je ne comprends pas cette polémique.
Oui. Vaincre l'AVC, alors il y a Brigitte, une fidèle auditrice qui a mis sur le Facebook l'AVC en détail, vaincre l'AVC, le lien vaincre.avc.org. Merci Brigitte pour aller voir pour aller vous tester justement, et puis le livre qui est indispensable vraiment, qu'il faudrait que chacun d'entre nous ait chez soi. Je le rappelle, vous êtes quelqu'un d'extrêmement pédagogue, donc les choses sont simples, bien expliquées, et on n'est pas obligé de le lire de A à Z, mais d'aller piocher selon qu'on est concerné, si on veut savoir comment prévenir l'AVC, si on a été victime d'un AVC, comment changer les choses, améliorer son quotidien, et puis pour ceux qui sont autour et qui ne comprennent pas parfois celui qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral. C'est paru aux éditions du Rocher. Professeur Pierre Amarenko, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. À tout de suite pour les débats.